Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Quelle est l'origine de la mystérieuse énergie noire responsable de l'accélération, de l'expansion de l'univers? C'est la question contemporaine posée aux cosmologistes dans ce début du 21e siècle avec des expériences très concrètes dont nous allons parler avec notre invitée, Vanina Ruhlmann-Kleider. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cosmologiste, vous travaillez au service de physique des particules au CEA et en particulier, j'allais dire, sur une expérience phare qui se termine au moment où nous enregistrons, en 2008, et qui se situe au sommet d'une montagne, alors bien loin d'ici, bien loin de Paris, qui se situe à Hawaï. Alors, quelle est cette expérience? Elle a un nom de code, hein, SNLS, un acronyme. Qu'est-ce que ça signifie et quel est l'objectif?
Alors, SNLS veut dire Supernova Legacy Survey, ce qu'on pourrait traduire en français comme un relevé digne d'être légué à la communauté scientifique qui porte sur des supernovae. Alors, c'est un petit peu long, évidemment. En anglais, c'est beaucoup plus court. Le mot important là-dedans, c'est le relevé. C'est-à-dire que c'est un programme extrêmement ambitieux qui voulait pouvoir détecter et mesurer un grand lot de supernovae, et en particulier de supernovae de type 1A, pour en faire des résultats qui soient vraiment scientifiquement de très grande qualité et qu'on puisse léguer après à la communauté scientifique. Et comme vous l'avez dit, ces supernovae 1A sont des objets extrêmement intéressants pour la cosmologie parce qu'ils permettent de tester l'expansion de l'univers, de voir en particulier si elle accélère ou pas. Donc c'est ça vraiment le but premier de SNLS.
Ça c'était, c'est quand même récent, c'est-à-dire en 1998, on s'aperçoit que l'univers que l'on sait être en expansion, mais que l'on pensait être en expansion, et puis finalement ça se ralentissait.
Exactement,
petit à petit,
oui.
Hein. En fait, il s'accélérait.
Oui. Et c'est la première fois, effectivement, qu'on a cette surprise, cette découverte. Les équipes de l'époque s'étaient intéressées à aller regarder ces objets, donc supernovae de type 1A, c'est-à-dire des explosions d'étoiles d'un certain type. Et leur idée, c'était d'aller regarder des explosions les plus lointaines de l'époque. Parce qu'évidemment, ces objets, on les connaissait depuis longtemps, mais on les avait surtout étudiés dans l'univers local. On n'avait pas eu l'idée d'aller regarder un petit peu plus loin, donc à des distances très grandes. Et c'est deux équipes américaines et concurrentes qui ont fait ces premières mesures dans ces années-là. Et en mesurant la luminosité reçue de ces explosions lointaines, elles se sont aperçues que la luminosité était beaucoup plus faible que ce qu'on attendait si l'expansion devait, comme vous avez dit, ralentir. Et donc c'était une indication que finalement que la distance parcourue par la lumière en provenance de ces explosions était plus grande que ce qu'on attendait pour un univers finalement dominé par la matière. D'où l'idée que, bon, il y a quelque chose qu'on ne comprenait pas.
Il y a quelque chose qu'on ne comprenait pas. On a commencé à douter d'ailleurs des mesures elles-mêmes, c'est-à-dire des chandelles, parce que ces supernovae, ce sont des bornes, ce sont des chandelles qui nous permettent d'étalonner les distances dans l'univers. C'est ça le principe.
Absolument. Alors le principe, c'est de dire que une supernovae de type 1A, c'est une explosion d'étoiles qui est à peu près toujours ça a le même mécanisme à la base, parce que c'est la même manière de fin de vie d'une étoile.
C'est deux étoiles ou c'est une seule étoile?
C'est ce qu'on pense. On pense que le mécanisme à l'origine, c'est qu'il y a un système binaire. Quand même, la plus grande fraction des systèmes d'étoiles sont en système binaire. Donc, on a un système dans lequel on a une naine blanche, une étoile de petite masse en fin de vie, qui est accompagnée d'un compagnon, justement, qui, elle, est plutôt une géante. Et la naine blanche, en fait, accrète de la masse de la part de son compagnon.
Elle aspire.
Elle aspire jusqu'à atteindre une limite où il y a instabilité et c'est ce qui provoque l'explosion. Donc on aurait un même mécanisme à l'origine de toutes ces explosions et qui dit même mécanisme dit même luminosité émise. Et c'est ça qui permet de nous dire que c'est une espèce de lampe étalon, si vous voulez.
Ouais, on connaît le nombre de watts et voilà, on éloigne.
Absolument. Et là, on sait en plus bien calculer la luminosité émise par ces objets, parce que c'est la physique nucléaire qui est à la base, donc on sait calculer ça. La luminosité émise doit être la même. Donc celle que nous recueillons à une certaine distance de l'objet, c'est une mesure de la distance parcourue par la lumière. Et comme le trajet des rayons lumineux dépend de la géométrie, de l'espace-temps, et que ça dépend un petit peu des ingrédients qu'il y a dans l'univers, on peut justement là tester les composantes de l'univers.
Oui, parce que ce sont des supernovas lointaines, c'est-à-dire qu'elles sont...
Celles-là, elles sont lointaines,
exactement. Lointain, ça veut dire quoi pour vous ?
Alors, ça correspond à... Nous, les distances, on les mesure en décalage spectral.
Ouais.
Donc, ce sont des décalages spectraux, pour le cas des SNLS, entre 0,2 et quelque chose comme 1,2. Ce qui veut dire, c'est des explosions qui nous font remonter dans le passé de l'univers à moins 3 millions d'années pour les petits décalages spectraux, jusqu'à 9 milliards d'années. Donc c'est des trucs très 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 anciens. Et la lumière a donc parcouru des très grandes distances. Et c'est justement parce qu'on a parcouru des très grandes distances qu'on peut commencer à avoir des différences entre des univers qui seraient formés que de matière ou des univers qui seraient formés de matière plus d'autres choses. C'est pour ça qu'on a vu quelque chose à l'époque.
Donc ça veut dire que c'est des explosions dans des galaxies très lointaines,
très lointaines.
Et finalement c'est la seule lumière qu'on puisse attraper aussi loin qui soit calibrée.
Oui, oui. C'est une excellente synthèse, c'est absolument ça. Oui.
Alors, on a commencé par douter, vraisemblablement, parce que en 1998, finalement, il n'y avait pas des centaines et des centaines de supernovas. Il y en avait quelques-unes.
Il y en avait quelques-unes, il y avait quelques dizaines. Mais déjà, à l'époque, les gens ne sont pas précipités en disant « Ouais, on a vu une explosion lointaine, voilà le résultat. » Non. Il y avait quand même eu des observations d'explosions proches qui avaient montré quelques faits expérimentaux prouvant que, tiens, ces objets, vraiment... Quand on regardait en tout cas leur courbe de lumière, c'est-à-dire le flux lumineux en fonction du temps, ça se ressemblait. C'était quand même pas extrêmement différent d'un objet à l'autre. Ce qu'on entend par là, c'est que si on regarde la courbe de lumière, donc une fois encore l'évolution temporelle de la lumière reçue en fonction de ces explosions, on s'aperçoit que les courbes se ressemblent beaucoup d'une supernovae à l'autre. Et même, déjà à l'époque, on avait vu qu'on pouvait... s'affranchir de la dispersion qu'il y avait d'une supernovae à l'autre, c'est 30% de dispersion dans le flux au maximum de lumière. On pouvait finalement remettre toutes ces courbes les unes sur les autres en déconvoluant très simplement en disant que les courbes elles se ressemblaient à une dilatation temporelle près, quoi. Et donc en corrigeant ces dilatations temporelles, toutes les courbes tombaient les unes sur les autres. Et ça c'était un indice disant bah tiens c'est peut-être bien quand même des chandelles standards, des étalons de distance. C'est sur la base de cette observation que on a commencé à croire à l'hypothèse que ces supernovae 1A c'est vraiment des chandelles standards, quoi, des étalons.
Ça marchait dans toutes les directions. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on regarde dans l'univers, c'est pas des nuages de poussière, c'est pas des nuages de gaz dont on se dirait que c'est loin.
Et nous d'ailleurs, dans SNLS, nous regardons quatre champs différents. Et quand on regarde les résultats qu'on obtient sur ces quatre champs, en les comparant, vu qu'on a de la statistique suffisante pour diviser notre lot en quatre, on voit pas de différence. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire.
Vous allez nous raconter cette expérience qui justement est installée à Hawaï. Comment est née l'idée finalement en se disant il faut avoir plus de chandelles, plus d'étalons, est-ce qu'on va essayer d'avoir...
Pas seulement, parce que là on peut justement partir de ce qu'on avait à la fin des années 90 pour savoir pourquoi on a demandé ce qu'on a demandé au CFHT, finalement le télescope franco-canadien hawaïen du Mauna Kea. En fin des années 90, les expériences qui ont détecté ces supernovae lointaines, elles ont fait un peu avec les moyens du bord, si on peut dire. Elles ont fait avec les instruments qu'ils avaient, donc pas un très grand champ, pas une forte statistique de supernovae observées, et avec des temps d'observation qui étaient ce qu'on avait bien voulu leur donner. En plus... pour mesurer une supernovae, faut d'abord la détecter. Il faut détecter que quelque part, il y a une explosion. Donc je pense qu'ils avaient eu des alertes, un petit peu d'autres expériences. Tiens, il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder là. Et alors, à ce moment-là, on pointe et on essaye de mesurer la fameuse courbe de lumière. Tout ça, mis de bout à bout, faisait qu'au total, il y avait peu de supernovae et que leur courbe de lumière, il n'y avait que quelques points de mesure. Si vous voulez, typiquement, une supernovae, une fois que ça explose, la courbe de lumière met 20 jours pour monter. Donc 20 jours, pendant 20 jours, le flux augmente, on arrive au maximum de lumière, et puis après, il y a 50 jours pour décroître.
Il faut la prendre au début, donc, pour l'avoir vraiment.
Ça serait bien. Justement, si la détection est faite par une autre manip, c'est souvent très près du maximum de lumière, et celle qui va, l'expérience dans la fin des années 90, qui allait mesurer la courbe de lumière, ne voyait que la décroissance. Donc, nous avions des courbes de lumière mitées, si vous voulez, hein, pas très bien échantillonnées dans notre jargon, avec des mesures peu fréquentes. Et par ailleurs, il est aussi très important d'aller regarder les courbes de lumière dans plusieurs bandes passantes. À l'époque, ils n'en avaient pas, ils avaient deux filtres. Donc, tout ça mis bout à bout, ça faisait... Il y avait un fait expérimental très intéressant. Tiens, on a l'impression que la luminosité de ces objets est plus faible que ce qu'on attend, donc l'expansion s'accélère. Et puis oui, mais enfin, les moyens expérimentaux de l'époque, c'est un peu limite. Donc, on a voulu vraiment faire des expériences qui répondaient à ces critiques observationnelles.
Avant de rentrer dans le détail, est-ce que ça a été pris au sérieux? C'est-à-dire, cette idée, quand même, qui est une révolution, l'idée d'imaginer que l'expansion de l'univers s'accélère, c'est, je veux dire, au sens cosmologique, c'était une nouveauté formidable. On pensait tous, je me souviens, on utilisait le mot Big Bang, et puis après on imaginait le Big Crunch, c'est-à-dire le ralentissement de l'expansion de l'univers, et puis ensuite il se serait réeffondré sur lui-même, et tout d'un coup il y a un événement extraordinaire, c'est que l'expansion s'accélère. On l'a pris au sérieux au départ?
Moi j'ai l'impression que oui, quand même. Bon, alors il faut dire, et c'est vrai, si je peux faire un petit aparté personnel, c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais en physique des particules, hein, fin des années 90, et je me rappelle très bien en 1999, donc enfin je veux dire l'année de la découverte ou un an après, j'ai assisté à une conférence dans ma discipline où Saul Perlmutter, qui était justement un des responsables d'une de ces expériences, est venu faire un exposé de cosmologie en général. Et il a présenté les résultats du supernovae, ça n'a fait rire personne, je veux dire, on l'a tout à fait prise au sérieux. Même si peut-être, oui, on n'avait pas imaginé, je pense qu'il y avait quand même des faisceaux de présomption avec tous les résultats de la cosmologie de ce temps-là, qui disaient, tiens, peut-être, il faut quand même sortir du cadre un peu trop restrictif qu'on avait. N'oublions pas qu'il y avait déjà l'idée que la matière qu'on sait observer, c'est très faible dans toute la matière qu'il y a dans l'univers. L'idée de matière noire avait fait son chemin. Donc, rajouter l'énergie noire, finalement, ça n'a pas été non plus une grande révolution. Même si, bon, pas beaucoup de baguettes magiques, mais on était habitué déjà à l'idée qu'on comprenait vraiment pas tout dans l'univers. Déjà avec la matière noire, ça avait été il fallait changer de culture, quoi. Une révolution culturelle, on va dire. Et puis l'énergie noire, bon, c'est un truc en plus. Bon.
Alors, voilà. On passe à la cosmologie observationnelle. C'est-à-dire que premier objectif, c'est de vérifier que c'est vrai et d'avoir des données. Alors, avoir des données, ça veut dire des données. Alors, des données propres, ça veut dire monter une expérience et c'est celle sur laquelle vous travaillez. Quel est le principe?
Alors, le principe, c'est en fait, quand le CFHT a lancé son programme sur son télescope avec une nouvelle caméra Megacam, etc., ils ont lancé un appel à expérience, évidemment, en disant qu'il y avait une partie du temps qui allait être dédiée, oui, on peut dire ça, à des grands programmes de relevé, pas à des petites manips, entre guillemets, amenées par des petites équipes, mais à des grands relevés, vraiment quelque chose qui ferait date dans les méthodes expérimentales, dans la quantité de mesures faites, et auquel on pourrait réserver un temps d'observation important sur le CFHT. Alors là, bon, plusieurs équipes ont postulé, et en particulier l'équipe de SNLS a demandé un temps d'observation conséquent sur ce qu'on appelle l'observation des champs profonds, qui vont très loin en magnitude, puisqu'on va jusqu'à 26, hein, une magnitude limite de 26, pour aller détecter des supernovae les plus lointaines qu'on puisse observer, en tout cas sur Terre. Et la proposition a paru tout à fait motivée. Hein. Il fallait quand même vérifier si ce qu'on avait vu fin des années 90 était réel ou pas. Et dans les cordes de l'instrument, aussi bien la caméra que le positionnement au Mauna Kea, etc. Et ça a été tout à fait accepté.
Donc on vous a donné 5 ans de temps de télescope.
Pas 100%, mais quand même avec une allocation de temps qu'on avait demandé. C'est un des programmes prioritaires, hein, faut le dire d'ailleurs. C'est vrai que c'est au détriment peut-être d'autres programmes ou d'autres demandes, mais notre programme SNLS a vraiment eu le temps demandé.
Donc un des meilleurs sites du monde,
oui,
Mauna Kea, Hawaï, formidable. Un ciel... Oui. Pratiquement tout le temps dégagé.
Oui, sauf en hiver, mais bon.
Sauf en hiver.
Il y a quelques soucis en hiver, mais bon.
Un grand télescope.
Oui.
Quelle taille?
3,6, si je ne me trompe pas.
3,60 mètres de diamètre. Une caméra que vous connaissez, puisqu'elle a été développée
dans nos services techniques.
Dans vos services. Megacam qui a un large champ.
Oui. un degré carré,
quatre fois la pleine lune, ouais. Et qui vous permet de poser longtemps.
Oui.
Combien de temps ?
Des pauses de quelques minutes par filtre. Bon, ça dépend. Les temps sont diffèrent d'un filtre à l'autre en fonction de ce qu'on veut voir, mais c'est de l'ordre de quelques minutes.
Et là, vous avez entre guillemets scanné l'univers profond, essayé d'attraper
Pas scanné. On a vraiment. On pose sur toujours la même portion du ciel. Hein, on a quatre portions du ciel qui nous permettent de faire le tour de l'année, en gros.
Ouais.
Quatre portions du ciel sur lesquelles on revient jour après jour. Et avec, en fait, des mesures tous les 3 ou 4 jours. C'est pas tous les jours parce que sinon on prendrait tout le temps, mais tous les 3 ou 4 jours, on revient pour SNLS sur ces champs-là. Avec les filtres que nous avons demandés, avec les temps de pause que nous avons demandés.
Vous jetez vos filets tous les 4 jours,
oui, en espérant. Sur la même portion
sur la même portion de ciel, en espérant.
Absolument.
Ramener des supernovas.
Oui.
Et combien dans les filets au bout de
Et
presque 5
ben
ans?
Combien aux environs de 400 à 500.
400 à 500
400 à 500 supernovas. Ouais.
Alors, une fois que vous en avez attrapé une?
Alors, une fois qu'on en a attrapé une, ce qu'on fait, c'est que tout de suite. Alors, d'abord, on la perd pas. Évidemment, comme on revient toujours sur la même portion du ciel, il n'y a pas de problème. Elle est dans les filets et elle sera suivie. Ça, c'est très important. Donc, on assure déjà le suivi régulier tous les 3 ou 4 jours de la courbe de lumière, de ce qu'on appelle la courbe de lumière. Et si on a de la chance, c'est-à-dire si quand la première fois qu'on pose sur le champ dans une saison, la supernovae explose un tout petit peu après le début, on a vraiment même toute la courbe de lumière, la montée, la descente. Donc ça, on est très content. Mais en plus, comme on est toujours sur la même portion du ciel et qu'on détecte les supernovae assez vite, on peut faire une alerte, nous, vers d'autres télescopes de classe 8 à 10 mètres cette fois, pour faire la spectroscopie de ces objets au plus près du maximum de lumière, évidemment.
Donc, là, vous utilisez des télescopes beaucoup plus gros.
D'autres télescopes, et beaucoup. Keck, Gemini, Magellan, VLT. Et on a obtenu auprès de ces télescopes aussi du temps de spectroscopie pour nos objets. Ça, c'est un autre point très fort de SNLS. On ne peut pas faire la spectroscopie, nous, je veux dire, non, c'est pas possible, mais on a du temps, et plus de temps pour la spectroscopie que pour la photométrie. C'est complètement fou.
Qu'est-ce qu'un spectre d'une supernova de ce type-là, lointaine, vous permet d'apprendre ?
Le spectre de la supernova nous permet d'abord de confirmer le type. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les explosions de ces étoiles, les supernovae 1A, ont une courbe de lumière, j'ai dit montée en 20 jours, descente en 50 jours, ce n'est pas les seuls objets transitoires qui ont ce genre de courbe de lumière.
Il y en a d'autres.
Ne serait-ce que les explosions d'autres types. Type 2, type 1BC, des choses comme ça. C'est aussi des explosions, le flux lumineux monte très vite et décroît. Donc nous, comme on fait une détection de ces objets-là sur uniquement la courbe de lumière, on peut se tromper. Et on n'a pas envie de se tromper après dans l'analyse de la cosmologie. Donc, on envoie la plupart de nos candidats supernovae aux télescopes qui font de la spectroscopie pour confirmer le type, premièrement. Et après, deuxièmement, évidemment, le décalage spectral, qui est mesuré bien plus précisément avec un spectre que ce que nous, on peut faire avec uniquement les données de courbe de lumière.
Vous attendiez un échantillon aussi important?
Oui. Non, c'est de toute façon les demandes de temps étaient faites, et puis la définition de l'expérience, les champs, etc., étaient faites sur la base de plusieurs centaines de supernovae de type 1A à la fin du relevé. C'est vraiment fait pour ça.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez donner la conclusion de ces 5 ans d'expérience, oui ou non, l'univers est-il en expansion accélérée compte tenu des observations de supernovas lointaines?
Sans ambiguïté, oui. Nous confirmons totalement le résultat des deux expériences de première génération de la fin des années 90, l'expansion de l'univers est bien accélérée. Et là, on le voit avec une précision bien meilleure qu'à l'époque. Et en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté observationnelle, il n'y a plus d'ambiguïté observationnelle sur ce résultat-là. Après, on peut discuter de l'hypothèse de base, chandelle standard ou pas chandelle standard, exploitation des résultats, est-ce que l'exploitation des résultats est un peu biaisée par cette hypothèse ou pas? Mais du point de vue des mesures, là, il n'y a pas photo, quoi. Enfin, si je peux me permettre.
Expérience réussie, alors.
Expérience totalement réussie, c'est un succès fabuleux.